Bonjour à toutes et à tous, à chacun, à chacune, bienvenue sur La Route Inconnue, votre magazine bimensuel dédié à la poésie qui s'écrit, se publie et se lit aujourd'hui. Un magazine réalisé par votre serviteur en partenariat avec la revue de poésie Décharge. Je vous le rappelle, en seconde partie d'émission, vous pourrez entendre les chroniques de Jacques Morin, Louis Dubos et Jean-Claude Touzeil. Mon invité du jour, Daniel Py, poète, spécialiste du haïku et occasionnellement traducteur. Vous venez, Daniel, justement de publier aux éditions Unicité la traduction en français d'un ouvrage à mon sens capital. Il s'agit du premier tome de l'œuvre de Reginald Horace Blyce consacré au haïku. Pour tous les lecteurs francophones qui s'intéressent au haïku, cette publication est à mon sens un véritable événement car il s'agit là de la première traduction française du livre qui, en quelque sorte, a ouvert le monde du haïku aux Occidentaux lors de sa parution en 1949, même si cette forme poétique était déjà pratiquée depuis le début du XXe siècle. En France, on peut dire que les quatre volumes de Blyce ont ouvert un nouveau champ de recherche aux poètes et aux orientalistes. On peut dire ça, Daniel ?
Oui, tout à fait. C'est un des premiers à avoir vraiment fait connaître le haïku japonais à l'Occident, l'Occident anglophone particulièrement.
Avant d'entrer de plein pied dans le livre, c'est un livre, une richesse vraiment extraordinaire, c'est un gros livre. On pourrait peut-être parler de son auteur, donc Reginald Horace Blyce, dont la vie ne fut pas de tout repos. Il est né en Angleterre le 3 décembre 1898, dans une famille plutôt pauvre, et on peut dire rien qu'il prédisposait à devenir l'homme par qui le haïku s'est imposé en Occident dans son enfance.
Oui, tout à fait. Je crois que son père travaillait au chemin de fer. Voilà, comme tu l'as dit, peut-on se tutoyer
hein? Allez, on peut se tutoyer, oui, on va pas.
Merci, Christophe. Donc, oui, ils étaient de milieu modeste, de la banlieue de Londres. Et il a suivi des études, normales à l'école. Et puis, il s'est intéressé à la poésie. Et puis, il a ensuite continué ses études à l'université. Et c'est comme ça qu'il est devenu féru de poésie et également de poésie asiatique. Et japonaise.
Alors, c'est un homme qui avait des convictions. En 1916, pacifiste convaincu, il refuse de participer à la Première Guerre mondiale et il est emprisonné pour cela.
Oui, tout à fait. C'est une histoire qui se répétera quand il sera au Japon pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il sera de nouveau emprisonné en tant qu'ennemi, étant anglais, du peuple japonais.
Oui. Après donc la guerre, Blyce rentre à l'université de Londres, il étudie la littérature, il se marie et là il rencontre son premier japonais et on peut dire que c'est là que l'aventure commence. Ce qui est rigolo, c'est que finalement c'est pas au Japon qu'il va aller, c'est en Corée.
Oui, c'est ça. On lui demande, alors donc cet ami de l'université ou qui est venu, je ne sais plus très bien, à l'université, le convainc d'aller enseigner l'anglais, je pense, en Corée. Ouais. Dans un premier temps.
Ouais. Alors, il a appris le chinois, le japonais à Séoul, mais aussi le bouddhisme zen, et c'est vraiment pour lui une découverte capitale. On ne peut pas comprendre finalement son travail sur le haïku sans évoquer l'influence du zen.
Oui, tout à fait. Il était profondément marqué par les essais du Daisetsu Suzuki sur le bouddhisme zen. Un grand penseur et pratiquant du bouddhisme zen. Et cette influence ou cette étude du zen, en fait, conforta pendant des périodes un petit peu difficiles de sa vie, quand, par exemple, sa première femme retourna en Angleterre, et puis quand un de ses enfants, enfin son enfant adopté, qui était coréen, fut fusillé en tant que collaborateur à la fin de la guerre. Et donc, comme le dit l'introduction, le bouddhisme zen fut sa consolation.
Ouais, ouais. Heureusement, donc, il s'est remarié, hein, il a rencontré une japonaise en 1937, il l'épouse et elle lui donne deux
Deux
filles.
filles,
Et
oui.
c'est à ce moment-là, d'ailleurs, hein, qu'il a quitté la Corée, c'est-à-dire au moment, d'ailleurs, où le Japon déclare la guerre aux États-Unis, et qu'il s'installe
Exactement.
à Kanazawa, c'est au bord de la mer du Japon. Mais finalement, il est de nouveau emprisonné en sa qualité d'anglais, quoi.
Voilà, oui. Il était ennemi, étranger, ennemi.
Ouais.
Il fut interné dès que le Japon entra en guerre.
Ouais.
Alors je ne sais plus quelle année c'était exactement,
Ouais.
mais voilà, il a été écarté et interné dans une maison à distance de la maison de son épouse et de leurs enfants. Enfin, il n'y en avait qu'une qui était née en 1939 et sa seconde fille naîtra après la guerre.
Alors, en fait, Blythe a été libéré à l'arrivée des forces d'occupation américaines. Et là, il va jouer un rôle important dans la réconciliation entre les deux nations, hein.
Oui, tout à fait. Ce qui est un peu bizarre, effectivement, hein, c'est que il puisse avoir joué un rôle très important auprès de l'empereur du Japon. Qui à l'époque était considéré comme un dieu et qui s'est fait persuader par Blythe et par Harold Anderson, qui était aussi un Américain, lui, qui était au service du général MacArthur, pour faire une tournée au Japon pour se montrer aux Japonais, pour le faire descendre de son piédestal, si on veut, pour montrer qu'il était un humain comme les autres, un mortel ordinaire.
Alors, entre 1949 et 1952 paraissent les quatre tomes de Blythe consacrés au haïku. Et j'étais étonné de constater que c'est une publication qui a été financée par le premier ministre de l'époque. Donc, il était très connu, même dans les plus hautes sphères, finalement.
Il avait des contacts parmi les gens de la finance, de la religion, de l'édition, de la politique, et ce qui lui a permis d'avoir cet appui afin de publier ses œuvres.
Alors, venons-en au livre, hein, que vous venez de traduire. Il est divisé en cinq sections. Les origines spirituelles du haïku, Zen, l'état d'esprit pour le haïku, haïku et poésie, les quatre grands hajin et la technique du haïku. Alors, moi, je maintiens qu'il s'agit d'un événement éditorial important parce que ce premier tome de Blythe, intitulé La culture orientale, nous familiarise avec les origines spirituelles du haïku, et qui est, finalement, les origines, elles sont multiples. C'est un métissage, hein, de confucianisme, de taoïsme et de bouddhisme chan. Je n'avais jamais perçu, par exemple, que chez Basho, eh bien, il y avait une influence confucéenne. Il la met en lumière, Blyce.
Tout à fait. Il éclaire très bien ces diverses influences. Et c'est ça. Pour moi, c'est le livre parmi les quatre haïkus de Blythe qui vraiment pose les bases, qui est le plus important pour découvrir la culture japonaise et éventuellement le haïku.
Les trois autres tomes sont consacrés plus précisément finalement aux traductions de haïku des grands maîtres, c'est ça, non?
Oui, c'est ça. Et ils sont répartis par saison, comme le font traditionnellement les Japonais. Donc il y a les quatre saisons, printemps, été, automne, hiver, plus la cinquième saison que représente le nouvel an pour les Japonais. Et puis, voilà, il continue à commenter tous ces haïjin, tous ces haïkus tout au long de ce développement par saison.
Alors, je voudrais qu'on parle à présent de la deuxième section du livre qui est consacrée au rapport entre zen et haïku. Rapport intime, hein, pour Blythe, il n'y a pas de haïku sans esprit zen pour lui. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consiste l'esprit zen pour ceux de nos auditeurs qui ne connaissent rien à cette philosophie?
Oui, alors c'est difficile de. C'est ce qu'il y a de plus difficile à définir,
Oui.
l'esprit zen, ou l'esprit du haïku, pardon. Ah, vous voyez, hein, je suis tellement influencé par Blythe que pour moi, c'est l'esprit zen. Mais bon, il est vrai que personnellement également, je pense que le zen a un rôle excessivement important dans le développement du haïku. Mais ce n'est pas la seule influence, comme tu as dit tout à l'heure, au contraire. Pour Blythe, l'esprit du haïku repose effectivement, ou est très parallèle avec des qualités que recherche le bouddhisme zen. Par exemple, l'humilité, le désintéressement, la non-intellectualité, qu'on retrouve tout à fait dans la philosophie, si on peut dire que le zen, bouddhisme zen soit une philosophie.
Ouais.
C'est par exemple, hein, il y a d'autres... dans cette section, je vois qu'il y a 13 qualités qui sont développées.
Et la simplicité est très importante aussi, évidemment. Ouais.
Oui, parce que... par rapport à la poésie occidentale, par exemple, où on aime, en général, ornementer, faire de belles choses, de belles phrases, construire des images très riches, le haïku, je dirais presque au contraire, s'efforce de simplifier, de venir à l'os et de couper justement dans cette ornementation pour donner à voir sans que le langage nous bloque un petit peu la vision de ce que le haïjin, l'écrivain de haïku, essaie de nous faire voir ou sentir.
Et en même temps, j'ai découvert des parallèles saisissants entre la poésie anglaise et la poésie japonaise. Il fait constamment des allers et retours. Hein. Évidemment, c'est un grand connaisseur de la poésie anglaise.
Oui,
et
oui,
donc,
oui.
Il est aussi un peu un pont, finalement, hein, entre la culture occidentale et la culture orientale. Je ne sais pas ce que tu en penses.
Tout à fait, oui, oui. C'est également intéressant d'avoir ce volet-là. Je sais qu'en France, on connaît, même moi-même, hein, je connais assez peu la poésie anglaise, mais avec sa culture, son éducation, il arrive à faire un pont tout à fait entre la poésie anglaise et le haïku,
ouais.
En comparant et même parfois en extrayant de certains textes anglais des phrases ou des images qui pourraient appartenir au haïku.
Ouais. Alors, c'est un livre très complet qui est très personnel aussi parce que Blythe n'hésite jamais à dire ce qu'il pense de tel ou tel haïku, de tel ou tel haïkiste. Il historise, il pense, il critique, il compare et on peut dire que c'est un ouvrage d'une grande valeur intellectuelle qui témoigne d'une connaissance à la fois étendue et profonde de la culture orientale. C'est presque un philosophe. On a beaucoup à. Il donne beaucoup à penser aussi. Hein.
Oui, tout à fait. Il ne reste pas neutre, effectivement. Il s'implique, comme il s'est impliqué hein, dans sa vie. Hein, tu le disais tout à l'heure. Bon, il était objecteur de conscience. Il a des idées très fortes et très. Voilà, et il les met en valeur.
Alors, en filigrane, hein, c'est une philosophie personnelle qui se dessine, qui s'est forgée en partie grâce à la pratique du zen, tu l'as dit tout à l'heure, mais aussi en fréquentant les œuvres, et les œuvres aussi spirituelles d'autres traditions. Il cite souvent Maître Eckhart également, qui est la mystique rhénane, etc. C'est quelqu'un qui avait une culture très profonde, hein, qui faisait des correspondances entre les cultures.
Ça, oui, oui, oui. C'est effectivement une très grande richesse qu'il a en lui-même et qu'il nous fait partager.
Ouais. Alors, il y a un chapitre qui est consacré aux quatre grands maîtres du haïku, par ordre chronologique, Basho, Busson, Issa et Shiki. Alors, j'aurais juste cité ce qu'il dit d'eux en introduction. C'est page 389, si je retrouve la page. Je crois que la voici. Voilà ce qu'il dit. Il y a donc trois grands noms dans l'histoire du haïku, Basho, Busson et Issa, auxquels nous pouvons ajouter un quatrième, Shiki. Et là, il dit, Basho est l'homme religieux, Busson l'artiste, Issa l'humaniste. Et il ajoute, Basho est concerné par Dieu comme il se voit lui-même dans l'esprit du poète devant les fleurs et les champs. Busson est concerné par les choses telles qu'elles sont, par et pour elles-mêmes, de leur propre droit. Issa s'occupe de l'homme, cet ange faible, par les oiseaux et les animaux luttant comme nous pour vivre et garder la tête hors de l'eau. C'est très beau, hein. C'est vraiment, hein, une œuvre littéraire, hein, tout à fait intéressante, mais il affirme tout de même la prééminence de Bachot, hein. J'ai le sentiment que Bachot, ça reste son préféré.
Je ne sais pas si son préféré vraiment, mais c'est vrai que Basho, c'est la pierre d'achoppement, si je peux dire, du haïku. C'est lui qui, c'est à partir de lui que le haïku a pris vraiment son essor. Il existait avant lui déjà depuis 1 ou 2 siècles, mais c'est lui qui l'a orienté d'une certaine manière, parce que le haïku, ça pouvait être avant lui des jeux de mots, ça pouvait être léger, ça pouvait être superficiel. Et il a approfondi donc le haïku et lui a donné des orientations plus sérieuses, si je puis dire, bien que vers la fin de sa vie, il recommandait que le haïku soit léger.
Ouais. Et le haïku doit être dit dans un souffle, hein, c'est ce qu'il disait. Ouais.
Oui, c'est comme chacun ne le sait peut-être pas, le haïku est traditionnellement écrit en 17 syllabes, enfin on traduit par syllabes en français. Ce sont des mots, des unités rythmiques qui sont plus ou moins toutes de la même longueur, assez courtes en japonais, alors que nous, nos syllabes, certaines sont allongées, certaines sont courtes. Bon, c'est un peu différent, mais ça reste vraiment très court. Et donc, on peut le dire sur un souffle. D'ailleurs, les Japonais, à l'inverse de nous qui insistons sur les derniers mots, en général, avant le point final, ont tendance, quand vous les écoutez dire un haïku, avoir un accent tonique fort au début
Oui.
et qui finit par s'éloigner, par diminuer vers la fin du haïku. Donc c'est un petit peu l'inverse. Je ne sais pas si c'était la question que tu m'avais posée au
Oui.
début.
Est-ce que, alors moi c'est une question que je me pose, est-ce que le livre a été difficile à traduire? Parce que je le disais, je trouve que c'est un ouvrage éminemment littéraire, et il a fallu que tu traduises aussi les poèmes en anglais. C'était un travail qui a duré combien de temps?
C'est-à-dire que j'ai acheté ces livres il y a peut-être maintenant une quinzaine d'années, et je les avais, non, je ne les ai pas traduits tous, j'ai traduit que le premier, et
Oui.
déjà le premier à l'époque, c'était il y a une dizaine d'années déjà, pour mon propre plaisir, j'ai mis 6 mois à peu près à traduire le premier volume. C'était un premier jet de traduction.
Ouais.
Évidemment, il a fallu peaufiner et améliorer. Quand François Mocaër, des éditions Inicité, a accepté de publier donc ce premier volume.
Ouais. J'ai vraiment beaucoup apprécié tes traductions des haïkus présentés par Bliss. Ça a été peut-être la partie la plus délicate du travail, non?
Pas spécialement, non. La partie la plus délicate, ça a été certaines citations en
Oui.
anglais, par exemple. Ou dans des langues étrangères. Alors, ce qui est bon, symptomatique, c'est que Blyth a fait des citations en allemand, par exemple, donc de Maître Eckhart ou d'autres. Blyth connaissait le russe, connaissait l'allemand, connaissait l'italien. Il les avait appris pour pouvoir lire, par exemple, l'italien, la Divine Comédie, etc., etc. Il est c'était absolument époustouflant.
Est-ce que traduire des haïkus, c'est finalement les réécrire d'une certaine manière?
Pas vraiment, pour moi en tout cas. J'essaie vraiment, à partir du texte anglais, puisque c'était le cas, de rester le plus fidèle à l'esprit, à sa traduction à lui, puisqu'il est, c'est lui qui l'a traduit des textes japonais. Et grâce à mon ami Laurent Mapson, qui est professeur d'université au Japon à Nagano, il m'a conseillé de garder à la fois le texte en romaji, le texte japonais, de donner la version anglaise également, pour que le lecteur puisse voir, parce que les traductions de Blythe ont été quelquefois critiquées. Uh-huh. Alors, ne pouvant pas faire ce travail moi-même, je laisse le lecteur qui connaîtrait la langue japonaise apprécier à travers la traduction de Blythe, s'il connaît aussi l'anglais, ou à travers la mienne, s'il y a vraiment une fidélité au texte d'origine. Peut-être Blythe, lui, a pris quelques distances avec les textes d'origine. Ça, je ne saurais trop le dire. Mais quant à moi, je suis resté absolument fidèle. J'ai essayé, en tout cas, de rester fidèle à la traduction que Blythe avait fait.
Avant de lire à nos amis auditeurs quelques extraits de ce livre, je voudrais citer, et il me semble qu'on pourrait citer en tout cas ce conseil de Bachot à tous ceux qui s'engagent sur la voie du haïku. Ne marchez pas dans les pas des anciens, cherchez ce qu'ils cherchaient. Moi, je vous pose une dernière question. Qu'est-ce que vous cherchez à travers la pratique du haïku?
C'est une question difficile.
Oui, c'est une question difficile, j'en suis conscient.
Le haïku, c'est une passion, c'est devenu une passion dévorante, puisque je passe maintenant la plupart de mon temps à graviter dans ce monde-là, soit par les lectures, soit par mes traductions donc de l'anglais, soit par l'animation d'un kukai, c'est-à-dire d'une réunion autour du haïku, que je fais depuis 11 ans, et je viens d'arrêter et de passer la main. Ça s'appelle le Kukai de Paris. Et voilà, je pourrais peut-être me consacrer à d'autres traductions, mais ça gravite toujours autour du haïku, que j'ai découvert quand j'étais adolescent, dans un livre sur, justement, le bouddhisme zen. Et c'était un haïku de Bousson, le premier haïku donc que j'ai lu et qui m'a laissé pantois. c'est vraiment sur les fesses, hein, comme on dit. c'est celui où il dit sur la cloche d'un temple un papillon endormi. Et ça disait tout en si peu de mots. Dans la traduction française. Et je me suis mis à imaginer, évidemment, tout ce qui pouvait se passer autour de ce papillon endormi sur une cloche. Et à partir de là, de fil en aiguille, je me suis intéressé, parce que je m'intéressais déjà à la poésie, mais la poésie telle qu'on la connaît, poésie pas tellement traditionnelle, classique, française, mais la poésie plus moderne, telle qu'à partir de Verlaine, Rimbaud, Apollinaire, etc. Ouais. Donc, la poésie plus ou moins moderne. Mais en tombant sur le haïku, ça a orienté ma recherche, et je suis rentré là-dedans, et je me suis fait prendre, et voilà, et je suis complètement dépassé maintenant. par cette forme de, pas seulement d'art, parce que le haïku n'est pas pour moi seulement un art, mais c'est aussi une manière de vivre, de ressentir, un petit peu comme le suggère Blythe quand il énumère toutes les qualités qu'il faut pour soit écrire, soit comprendre le haïku. Ouais.
C'est une voix, finalement, un VOIE.
Oui, tout à fait. Ouais. Ah oui, 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 oui. Pour moi, c'est beaucoup plus que simplement de la littérature.
Bien sûr. Ouais.
Ça englobe l'humain et dans toute... ses recherches dans toute sa démarche profondément humaine, qui peut être une démarche non seulement esthétique, mais éthique.
Daniel, un grand merci et un grand bravo. La culture orientale de Reginald Horace Blyce, premier des quatre tomes consacrés au haïku, un livre traduit, je le rappelle, pour la première fois en français et qu'on peut conseiller à tout le monde, aux néophytes et aux passionnés. C'est aux éditions Unicité. Et on en profite pour saluer de grand cœur François Mocker, directeur des éditions Unicité, qui est devenu vraiment le grand éditeur de haïku aujourd'hui en France. Hein.
Un des grands éditeurs. Ouais. Oui, 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 tout à fait. J'ai eu la chance de rencontrer, grâce à un ami, Paul de Maricourt. Et quand François voulait commencer sa maison d'édition, et il avait proposé à Paul de lui donner des textes d'un recueil. Et comme Paul venait au Koukaï, il a dit, mais pourquoi pas plutôt faire une anthologie du Koukaï. Et c'est comme ça que tout est parti. Et de fil en aiguille, François Mocker publie de plus en plus d'auteurs qui écrivent du haïku. Mais il n'est pas le seul. J'ai la chance aussi de connaître, par exemple, Madame Brigitte Pelletier, qui est l'éditrice des éditions Pipa, qui a une collection dédiée au haïku, qui s'appelle la collection Colam.
Merci beaucoup, Daniel. On te remercie pour ce travail tout à fait passionnant, admirable. Et évidemment, il faut se procurer ce livre si on aime le haïku. C'est un livre tout à fait indispensable. Il faut l'avoir dans sa bibliothèque. Merci, merci. Et puis, on laisse passer un peu de musique et je vais lire quelques passages de ce
merci
livre.
Merci beaucoup à toi, merci. Christophe. C'est très gentil de m'avoir invité sur vos ondes.
Je ressens le zen et la poésie comme étant pratiquement synonymes. Si l'on imagine qu'il puisse jamais y avoir un conflit entre le zen et la poésie du haïku, évacuons le zen, la poésie est le critère ultime. La vie des haïkus, l'humeur dans laquelle ils s'écrivent et doivent être lus, sont les mêmes que celles de Roshi, les mêmes que celles du Sutra du Diamant et des versets du Eki Gandroku. Leur différence se trouve dans les caractères concrets et abstraits de leur vision respective de la réalité. L'élément intellectuel est absent du haïku où il fusionne si complètement avec l'intuitif poétique qu'aucune analyse ne peut les séparer. Pour exprimer cela autrement, les philosophes chinois stimulent à travers leur forme intellectuelle cette humeur sereine et bénie que les haïjin font naître à travers leur représentation des choses de la nature. Ces deux groupes correspondent aux aspects théoriques et pratiques de la même chose sans nom que nous appelons la vie. Ils ne se connectent cependant pas consciemment dans les esprits des Japonais qui trouveraient les commentaires des poèmes de ce livre-ci non seulement inutiles, mais encore comme une tentative de séparer des éléments inséparables, de tirer vers la lumière de la raison un organisme qui ne peut vivre que dans ses propres obscurités profondes. En fait, comme une négation de tout l'esprit du haïku. Le haïku est une sorte de satori ou illumination dans laquelle nous voyons dans la vie des choses. Nous saisissons le sens inexprimable de quelque chose ou de quelque fait quasi ordinaire qui était jusque-là complètement négligé. Le haïku est l'appréhension d'une chose par la réalisation de notre propre unité originelle et essentielle avec elle. Le mot de réalisation ayant ici le sens littéral de rendre réel en nous-mêmes. La chose se perçoit en nous, nous la percevons par simple conscience de soi. La joie de l'apparente réunion de nous-mêmes avec les choses, toutes les choses, est donc le bonheur d'être vraiment nous-mêmes. Cela se fait avec toutes les choses parce que, comme l'explique le docteur Suzuki dans ses ouvrages sur le zen, quand une chose est embrassée, toutes les choses sont embrassées avec elle. Une fleur est le printemps, une feuille qui tombe a tout de l'automne, de chaque automne, de l'éternel, intemporel automne de chaque chose et de toute chose. Le haïku est la création de choses qui existent déjà, mais qui ont besoin du poète pour acquérir leur pleine stature humaine. Ces choses peuvent prendre la forme d'un clair de lune, avec une absence de pierre et un chien qui aboie en son sein. Inu wo wutsu ishi no sate nashi fuyu no tsuki. Pas une seule pierre à jeter au chien. La lune d'hiver. Pas une seule pierre à jeter au chien. La lune d'hiver. Basho. Le silence, la voix de la cigale pénètre les rochers. Le silence, la voix de la cigale pénètre les rochers. Ce dont les choses proviennent, ce par quoi une fois nées elles vivent, ce dans quoi elles réentrent à leur mort, tâchez de le connaître, ceci est Brahman. Différence est identité, identité est différence. Le haïku ne vise pas comme le waka à la beauté. Comme la musique de Bach, il vise au sens et une sorte particulière de beauté flotte autour. La nature véritable de chaque chose et encore plus de toute chose est une nature poétique. C'est parce que le Christ était un poète que des hommes le suivirent et le suivent encore, et pas Socrate. Socrate nous montra notre ignorance. Le haïku nous montre ce que nous savions de tout temps, mais ignorions savoir. Il nous montre que nous sommes poètes dans la mesure où nous vivons simplement. Ici encore, nous trouvons le lien entre haïku et zen. Le zen qui dit « Votre esprit ordinaire, voici la voie ». Voilà, c'était très court extrait de ce livre absolument passionnant. Je le conseille vraiment à tout le monde. Haïku volume 1, La culture orientale, de Reginald Horace Blyce, traduction de Daniel Peace et publié aux éditions Unicité. Vous pouvez évidemment vous le procurer chez votre libraire ou le lui commander. On écoute un peu de musique et ce sera ensuite au tour de Jacques Morin de nous faire part de sa chronique mensuelle. Une variation de Bach et maintenant Jacques Morin pour sa revue des revues audio.
Revue du mois audio numéro 52, cette fois c'est la revue Nouveau Delhi numéro 59. Cathy Garcia, la entre guillemets coupable responsable, comme elle s'appelle, de la revue, poursuit son chemin de livraison expédié sans un croche. Elle conclut pour l'année nouvelle son édito ainsi que la paix ferme le bec des imbéciles qui ne laissent pas passer la lumière. Cinq auteurs sont conviés dans ce numéro à qui sont attribués entre 7 et 12 pages, ce qui constitue un bel aperçu pour chacun. Pénélope Corpse. Les gens naissent avec des trous dans le ventre. Un langage oralisé qui ne s'embarrasse des conventions et des conformités ordinaires. S'il y a figure de style, ce n'est pas par jeu mais par nécessité, entre anaphores et répétitions. D'une façon générale, les poètes choisis ici par Cathy Garcia ne sont pas économes de mots et usent de vers proches de la phrase et de strophes voisines de la période. Les titres des textes résumeraient à eux seuls l'angle assez brut de sa poésie. L'humanité est un trou. Super 8. J'écris pas. On n'est pas meilleur. Dimanche en décembre. Le passé de Benoît Arcadias, ancien interné des hôpitaux, résonne dans ses textes, lesquels racontent chaque fois des rencontres dans le métro ou dans le train, des choses qui lui sont arrivées, mettant en scène hostilité ou déception. Jean-Louis Millet propose 7 fragments d'une psychorama holographique. Il s'agit de listes assez longues de ce qu'on pourrait appeler des données à la fois abstraites et précises. Exemple pris presque au hasard, la valise éventrée des restes du quotidien d'une vie. Ou la croûte d'une banquise dans la fermentation d'un rêve. Ou encore, avec pour le coup une image, l'ombre d'un pommier vivante au moindre souffle d'air. Cette accumulation de traits, ayant pour point commun l'article défini, tente à rendre réel un univers hétéroclite et poétique. Ajoutons que ces listes sont seulement interrompues parfois par un question-réponse, où la réponse vient avant la question. Réponse, dans l'ombre de la lumière. Question, où est la seule réalité? Marc Guimot est l'auteur d'un tout récent polder, Un début de réalité. Il donne ici des extraits d'un ensemble dans la prolongation intitulée « Réalité dispersée ». On reste dans la même logique. Le problème du mur, c'est qu'il ne croit pas naturellement à la fenêtre. On est toujours à la limite de l'absurde et du fantastique. On est allé trop loin en ne bougeant pas. L'auteur n'est pas fixé sur la forme, passant facilement de l'aphorisme au long poème, avec ce vers final. « Voulez-vous qu'on rajoute une musique d'ascenseur qui descend ?» Enfin, Pablo Gelgon, qui en tant que charpentier sait parler des mains qui voyagent. Elles n'en finissent plus de saigner sur le beau bardage d'épicéa. On voudrait bien avoir des mains comme un pied de biche et soulevées, agrippées sans avoir peur de rien suinter. On voudrait bien oublier les courchures, la bonne vieille croutasse. La main finit par ajuster la manière. Deux résonances critiques à propos de recueils de Walter Ruhlmann et Muriel Modelli. Et le tour est joué. Illustration d'Arnaud Martin, sensible à l'expressionnisme et au romantisme sombre du XIXe siècle et à la mélancolie sous toutes ses formes. 6 euros le numéro, ou 28 euros pour 4 numéros. Les Tout, 46 330, Saint-Cirque-la-Popie. À la prochaine fois. When I was young. I should have known better, and I can't feel no remorse, and you don't feel nothing back. I got a new see past my blindness.
my mind, girl, since the flood. Oh, Ophelia, heaven help a fool who falls in love.
C'était Ophelia par le groupe de Lumineers. Je vous propose à présent de rejoindre Louis Dubot, poète, ancien éditeur du Dé Bleu. On ne présente pas cette maison d'édition qui a marqué l'histoire de la poésie de la seconde moitié du XXe siècle. Louis Dubot nous revient pour sa chronique mensuelle avec un poète qui personnellement m'est cher, mais je sais qu'il est cher à bon nombre de gens qui écrivent et lisent aujourd'hui de la poésie.
La poésie Godot est de plein pied avec les gens, ouvriers et paysans, employés et ingénieurs, chômeurs et commerçants, enseignants et éboueurs, bibliothécaires et éducateurs de rue, migrants et retraités, dans leur travail, leurs loisirs, la tragédie quotidienne ou la comédie absurde de l'existence. Georges Godot, né en 1921, mort en 1999, fait tenir en 8 ou 10 lignes ineffables ce que les analystes chevronnés de l'Express, de l'Observateur ou du Monde n'atteignent, et pas toujours, qu'en 3 ou 4 colonnes, écrivait à son propos le linguiste Georges Mounin, qui ajoutait « S'il avait été grand reporter, il serait mondialement connu. » Seulement voilà, Godot est un poète. Alors que les marchands de soupe médiatiques engraissent les courbes de l'audimat, les petites proses sèches de Godot nourrissent notre faim d'humanité pour la faire grandir un peu plus. C'est quand même pas pareil. Et pour preuve, 6 poèmes de Georges Godot, sans autre commentaire. Ma mère et mon père, la nuit quand mon père et ma mère se battaient, je cachais d'abord la tête sous les draps, puis, à bout de force, je me dressais dans ma longue chemise et je criais. Il n'était pas méchant. Il se précipitait, me consolait, et je m'endormais dans les bras de l'un ou de l'autre. Parfois, dans leurs mains rejointes sous mon corps moite. Je me rappelle, ils se regardaient comme 2 enfants malheureux. Les petits voyous s'en vont à l'école. Ils ramassent des cailloux pointus pour rayer les voitures. Les plus belles, le plaisir est plus fort. Les par-dessus des petits voyous sont trop courts. La mère est manœuvre à l'usine. Elle taille dans les vieux effets entre 11h et minuit. La baraque est froide. Ses doigts sont gourds. Les enfants sont couchés dans le même lit. Ils ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre la misère. À force, la misère, elle met des pierres dans les mains. Sélection. Ils ont moins de 20 ans. Ils sont seuls dans un champ de blé. Lui est à genoux. Il broie dans sa main le plus bel épi. Elle se penche sur lui pour voir de plus près. Tête contre tête, il parle doucement de terre, d'engrais et de semences. Ce sont aussi des mots d'amour. Les mots magiques. L'ingénieur de l'usine a les cheveux en brosse et 25 ans. Sa chambre d'hôtel est jonchée de graphiques. Ils parlent de fission, d'isotope, en anglais et en russe. Isotope, personne ne connaît. Il n'a pas de poste de radio. Chaque matin, au charcutier, il demande les nouvelles du monde. Depuis quelques jours, le marchand moqueur est prudent. Il a lu quelque part que les fusées capables de détruire toutes les charcuteries de la Terre avaient un rapport avec les isotopes. L'ingénieur a grandi, mais il devient suspect. Le moment vient d'écrire lisiblement, s'enfuir, certain de l'acte clair, réfléchi, orienté, du pied posé à plat sur la neige dure, puis l'autre, et ainsi de suite, afin de retrouver les traces au retour, d'être toujours d'accord et content de la voie choisie. Le vol le plus fugitif est net, pur, et l'écrire vite n'a pas de sens. Chaque mot, juste, est lourd comme une balle pour gros gibier. Qu'il se détache sans bavure, qu'il s'élève, se maintienne seul, bleu, sans le moindre doute. 50 mots tranquilles font une montagne. Quand j'écris, mon chien est couché derrière moi. Il sait quand je peine et se méfie de ma chaise qui roule et recule pour rien. Parfois, quand elle pivote, que je dis « elle est là », que je siffle et chante, il se met sur le dos et je lui gratte le ventre le temps qu'il lui plaît. Après, il se recouche et ferme les yeux, content. Mon chien aime la poésie qui va bien. Les livres de Georges Godot, publiés dans la collection Le Dé Bleu, sont en principe disponibles aux éditions À Propos, 2 rue Frédéric Clément, 92 380 Garches, téléphone 01 45 31 79 28. Les éditions ont pignon sur rue à Paris, dans les locaux de l'ex-librairie José Corti.
Un grand merci à Louis Dubos pour nous avoir rappelé à quel point Georges Godot était un poète passionnant. Un autre poète passionnant, mais finalement peu connu, bien que son nom soit lui célèbre. Il s'agit d'Abbas Kiarostami, mais Abbas Kiarostami fut surtout connu en tant que cinéaste et photographe. Né le 22 juin 1940 à Téhéran et mort il y a 2 ans, il est reconnu depuis le début des années 1990 comme l'une des grandes figures du cinéma contemporain. Il a également donc publié quelques recueils de poèmes. Le premier était traduit aux éditions POL en 2002. Il s'intitule Avec le vent. Et là, j'ai choisi de vous lire quelques poèmes de Abbas Kiarostami qui ont été réunis sous le titre Un loup aux aguets aux éditions de la Table Ronde il y a déjà quelques années. Il s'agit d'une traduction de Nahal Tajadod et de Jean-Claude Carrière. Voici quelques poèmes, des poèmes qui sont assez proches finalement du haïku japonais, mais avec une spécificité qui ne doit rien à personne. C'est du Abbas Kiarostami. Une ligne rouge sur la neige blanche, un gibier blessé qui boite. Un oiseau chante au milieu de la nuit, inconnu, même pour les oiseaux. Deux feuilles d'automne se sont cachées dans la manche de ma chemise, sur la corde à linge. Un ruisseau qui coule dans un désert sans herbe recherche un assoiffé. Une colonne de poussière accompagne une feuille de peuplier blanc jusqu'au 7e ciel. Je reviens d'un enterrement. Mon soulier me serre, j'ai envie de faire l'amour avec quelqu'un que je ne connais pas. Mon ombre m'accompagne, parfois devant, parfois sur le côté, parfois derrière. Qu'ils sont doux, les jours nuageux. En ton absence, je parle avec toi, en ta présence, avec moi. Avec toi je souffre, Avec moi, j'ai peur. Où trouver mon sans-moi ? En ton absence, le jour et la nuit ont juste 24 heures. En ta présence, un peu moins, un peu plus. Je traverse un sentier étroit, avec peine, sans but. Les complaintes des riziculteurs sur l'ami infidèle ou sur le mal au dos. Je devine le goût des fruits du paradis dans le concombre poussiéreux du champ de mon voisin. Le drapeau de la liberté, ma chemise sur la corde à linge, légère et libérée de la prison du corps. L'eau qui se perd irrigue les herbes sauvages. Le matin est blanc, la nuit noire, entre les deux, une tristesse grise. Le lever du soleil dans l'œil doré d'un vieil aigle sur le cadavre d'un poulain blanc. Si haut, si majestueux vole le faucon cherchant un tout petit cadavre. À la lumière du jour, personne ne se souvient du ver luisant. Parmi des milliers de vers, un seul luit au cœur de la nuit. Qui a désigné la feuille verte du mûrier comme aliment du ver à soie? Un tourbillon de vent enveloppe la bouilloire du berger en haut de la colline. La pluie de printemps a éteint le feu qu'un vieux berger avait difficilement allumé. Et ce tout dernier, la rafale de printemps éteint d'un coup toutes les bougies du sanctuaire. Voilà cet extrait de Un loup aux aguets, poème de Abbas Kiarostami, traduit par Nahal Tajadod et Jean-Claude Carrière, publié aux éditions La Table Ronde. Je vais vous laisser pour terminer dans les mains expertes de Jean-Claude Touzeil, poète, créateur du fameux printemps poétique de Durcé, dont nous reparlerons dans quelques semaines, et puis aussi animateur du blog Le Biloba et chroniqueur sur La Route Inconnue. Voilà, excellente fin de journée à toutes et à tous. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle édition de La Route Inconnue.
Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous lire quelques poèmes de Marie-Josée Chrestien, qui est une poète de Bretagne, qui est une des fidèles du printemps de Durcé. Premier poème est extrait de Lascaux et autres sanctuaires. La présence d'un temps sans âge murmure en ses tressaillements. Goutte après goutte me parvient le grand silence nomade, l'éphémère passage de tant d'éternité. Dans l'étreinte des origines de ces secrets murmurés, lorsque tremblent ou se figent les signes morcelés, un instinct de lumière nous parvient. Et puis deux, trois autres extraits de Conversation de l'arbre et du vent, édition Tertium. Il neige. Le paysage est une page blanche, les arbres nus des encres noires dans les marges. Quelques oiseaux dessinent des points de suspension. Le vent est son propre chemin dans le ciel. Il s'efface comme les mots sur l'ardoise. Le vent ne parvient pas à effacer le paysage entier autour de l'arbre. Il se contente de disperser quelques cris d'oiseaux. Voilà pour Marie-Josée Christian. Et puis un petit poème extrait de Poirier Proche. Après les labours de printemps, on a déposé une grosse pierre de granit au pied du poirier. Un peu comme une borne, une offrande, un autel. Iconoclaste, le renard vient y marquer son territoire. Voilà. À bientôt.
Rappelle-toi, Barbara, il pleuvait sans cesse sur Brest ce jour-là, et tu marchais souriante, épanouie, ravie, ruisselante sous la pluie. Rappelle-toi, Barbara, il pleuvait sans cesse sur Brest. Et je t'ai croisé rue de Siam, tu souriais et moi je souriais de même. Rappelle-toi, Barbara, toi que je ne connaissais pas, toi qui ne me connaissais pas.
Rappelle-toi, rappelle-toi quand même ce jour-là, n'oublie pas.
Un homme sous un porche s'abritait et il a crié ton nom, Barbara. Et tu as couru vers lui sous la pluie ruisselante, ravie, épanouie.
Et tu t'es jeté dans ses bras, rappelle-toi cela, Barbara.
Je dis tu as tout ce que j'aime,
même si je ne les ai vus qu'une seule fois. Je dis tu as tout ce qui s'aime, même si je ne les connais pas.
Rappelle-toi, Barbara, n'oublie pas cette pluie sur la mer.
Heureux sur cette ville heureuse, cette pluie sur la mer, sur l'arsenal, sur le bateau d'Ouessant.
Oh Barbara, quelle connerie la guerre, qu'es-tu devenue maintenant sous cette pluie de fer, de feu, d'acier, de sang.
Et celui te serre dans ses bras amoureusement, est-il mort, disparu, ou bien encore vivant?
Oh Barbara, il pleut sans cesse sur Brest, mais ce n'est plus pareil, et tout est abîmé, c'est une pluie de deuil terrible.
Ce n'est même plus l'orage de fer, d'acier, de sang.
Tout simplement des nuages qui crèvent comme des chiens qui disparaissent.